Vous écoutez RTL.
15h et bientôt 4 minutes, c'est l'heure d'On est fait pour s'entendre sur RTL avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Bénédicte. On va parler d'amour jusqu'à 16h. Vous allez
programme.
Nous écouter exactement. Et je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci. On finit bien souvent par être agacé par ce qui nous touchait et nous amusait dans un premier temps chez l'autre. Alors peut-on changer la personne que l'on aime? Et pourquoi d'ailleurs cherchons-nous toujours à le faire? À tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, là, il n'y a plus de doute, hein, ça y est, c'est l'hiver, mais nous sommes au chaud sur l'antenne d'RTL. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et en direct, s'il vous plaît, 3210, les réseaux sociaux. Cette émission et la vôtre ne pourraient exister sans vos points de vue et vos expériences. Merci pour votre fidélité et place au sujet du jour. Au début, on s'en fichait des chaussettes qui traînent, du bavardage, du caractère dépensier, de ses indécisions, mais ça, c'était avant. Maintenant, on ne voit plus que ça. On aimerait bien que l'élu de notre cœur corrige ces petits ou gros défauts que l'on a du mal à tolérer aujourd'hui. Mais pourquoi les petites manies que l'on pouvait trouver charmantes nous tapent désormais sur le système? Peut-on changer l'autre? Qu'est-ce que ça dit de notre couple, de notre partenaire et surtout de nous? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Patricia Delahaye, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue Patricia. Vous êtes psychosociologue, coach de vie, coach en amour et puis auteur d'un ouvrage aux éditions Le Duc, Comment s'aimer toujours. Merci d'être avec nous Patricia. On est toujours tenté, alors on va le développé pendant toute cette heure, mais on est toujours tenté de façonner l'autre à notre image. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'on cherche la perfection, on veut que tout soit absolument parfait, on veut être en pleine harmonie, ce qui est évidemment une utopie. Cela dit, pour répondre à votre question, je crois qu'on peut quand même s'améliorer, s'augmenter, progresser au contact de l'autre, et on peut aussi influencer son conjoint. C'est un des bonheurs de l'amour, quand même, d'avancer ensemble.
L'influencer sans s'en rendre compte et sans forcément le vouloir. On accueille également aujourd'hui Bernard Gibérovitch. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes psychiatre, vous êtes thérapeute familial, auteur de différents ouvrages, dont chez Odile Jacob, Les 7 vertus du couple et J'arrête d'être jaloux aux éditions Erol. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de la trouille aussi derrière tout ça, Bernard Gibérovitch? La trouille que l'autre soit si différent de nous et nous échappe. Est-ce qu'on ne cherche pas à garder le contrôle en permanence?
Alors on peut chercher à garder le contrôle. La trouille, je ne sais pas, a priori, si on est amoureux de l'autre, c'est aussi parce qu'il est différent. C'est certes parce qu'il est semblable et qu'on a des valeurs communes, a priori, mais aussi pour ses différences. En tout cas, ça devrait l'être. Et on est tous tombés dans ce paradoxe qui est « je t'aime pour ce que tu es, mais j'ai envie que tu changes ». Et c'est un paradoxe qui convient sur lequel on va réfléchir pendant toute cette heure.
Est-ce que ça dure longtemps, cette bonne volonté dont on fait preuve au début d'un couple, Bernard Gibérovitch? Parce que c'est vrai que finalement, l'amour nous entraîne vers les différences de l'autre, vers ses traits de caractère. Et par ailleurs, il y a un moment où tout à coup, ça devient problématique. Donc, combien de temps est-ce que la lune de miel peut-elle durer en réalité?
Ça, c'est une vaste question. Et pardon, mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas en tête que la lune de miel va durer et s'arrête.
Oui.
Parce que la lune de miel.
Non, quand je parle de lune de miel, on s'entend.
Voilà,
hein,
la lune de miel, elle dure, puis elle évolue avec autre chose, qui évolue avec autre chose. Et on retrouve des moments de lune de miel dans les couples qui fonctionnent bien. A priori, on peut essayer de l'imaginer. Et donc, ce qui m'amène à vous dire qu'on fonctionne beaucoup avec les croyances qu'on a. C'est-à-dire, si on est convaincu, comme je peux l'être, que dans le couple, c'est un peu plus que toi et moi. C'est aussi du nous et du nous qui va se développer et qui va me permettre de changer moi-même et toi aussi d'évoluer. Je pense qu'on peut arriver à marcher à peu près sur nos deux pieds, sans se perdre soi-même, sans perdre sa liberté, sans perdre son autonomie et toutes les choses qui nous sont chères. Encore faut-il avoir cette conviction au départ.
Patricia Delahaye, quand je parlais de lune de miel, je parlais aussi, vous savez, de ces débuts qui font que tout est absolument magnifique. On voit le couple, ce que l'on vit avec une sorte de filtre, qui est le filtre, c'est une grille de lecture amoureuse, oui, où finalement tout est source de bonheur. Et puis on sait aussi qu'à un moment donné, on a besoin de défusionner, on a besoin de rentrer dans une forme de réalité. Hein. Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là, tout à coup, que ce que l'on aimait chez l'autre devient problématique?
C'est vrai qu'au début, on dit « ne change rien, surtout je t'aime comme tu es ».
Ah, oui,
oui, absolument.
Oui, oui, absolument.
Et c'est vrai aussi qu'on se monte sous son meilleur jour pour créer la fameuse cristallisation amoureuse. Et puis évidemment que quand on commence à vivre ensemble, apparaissent les défauts, les petites incompatibilités, Alors, soit on a la possibilité de changer, d'évoluer, de s'améliorer, demander et ça n'est pas très compliqué, soit il y a des résistances. Il faut voir la façon dont c'est demandé, dans quel contexte, à quel moment aussi ça grippe. C'est pas, en général, c'est pour exprimer des crises aussi, des petits heurts qu'il va falloir résoudre. Enfin bon, ça fait aussi partie de la vie de couple, c'est pas forcément grave.
On va se retrouver, si vous le voulez bien, tous ensemble dans un instant sur l'antenne d'RTL. Lucie est en ligne, elle va pouvoir justement nous livrer son expérience, nous éclairer de son expérience. Elle sera en direct, n'hésitez pas. Si comme Lucie, vous souhaitez intervenir sur cette antenne, vous composez le 3210 ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux et moi je recevrai vos messages et je pourrai justement les lire sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
En amour, peut-on changer l'autre ? On est parfois tenté d'intervenir sur la personnalité de l'autre en se disant, ben voilà, si on changeait ça, peut-être qu'on serait plus rassuré, peut-être que ça nous conviendrait mieux. Néanmoins, est-ce que ça n'est pas priver l'autre de sa liberté, tout simplement, d'être lui-même ou d'être elle-même ? On en parle aujourd'hui avec nos invités que sont Patricia Delahaye et Bernard Gébérovitch. Marie-Laure nous écrit sur Facebook, je pense que changer l'autre est voué à l'échec. On peut faire quelques petits efforts sur une courte durée, mais la personnalité revient forcément au galop. Quand on trouve la bonne personne, que ça marche avec quelqu'un, c'est qu'elle a les traits de personnalité qui nous dérangent le moins possible. Alors, est-ce que vraiment la personne que l'on aime, Bernard Gébérovitch, correspond en tout point à ce que l'on souhaite ? Pas forcément.
Non, en tout point, pas forcément. Mais votre auditrice a bien fait de distinguer les traits de personnalité et les comportements.
Oui.
C'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, on parlait d'agacement, des chaussettes qui traînent, qui sont de l'ordre de comportement. Après, les traits de personnalité profonds et les choses fondamentales qui constituent la personne, ça, il ne faut pas s'y attaquer tout de suite. En tout cas, si c'est vraiment des choses qui nous heurtent et qui nous blessent, il faut prendre le temps de pouvoir expliquer en quoi ça nous heurte et qu'on puisse développer ça. Sinon, si c'est simplement « arrête d'être comme ça », on va
se prendre un mur.
dans le disque dur, enfin dans les résistances profondes de l'individu et le bras de fer va se mettre en place.
On va accueillir Lucie, si vous le voulez bien. Je vais vous la présenter, elle est en ligne avec nous. Bonjour Lucie, bienvenue sur RTL.
Bonjour à tous.
Alors bonjour. Lucie, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes amoureuse en couple avec David depuis 2 mois, mais ça n'est pas du tout David dont on va parler.
Non, lui ça va.
Pour l'instant. À qui va-t-on s'attaquer aujourd'hui, Lucie ?
La victime.
Oui, non, c'est pas une victime. Enfin, non. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on le fait tous les jours, décrypter nos comportements. Bon, bah vous avez vécu avec Sohan, qui est votre ex-compagnon. Vous n'aviez pas la même vision de la vie. Vous allez nous expliquer justement plus en détail de quoi il s'agit.
Bah alors en fait, au départ, comme tout à chacun, on découvre l'autre. Donc au départ, ça allait très très bien. Et en fait, arrivé à un moment de notre vie, au départ, on habitait tous les deux loin de tout le monde. Donc tout allait parfaitement bien. Jusqu'au jour où on s'est rapproché de ma famille. Parce que j'en avais beaucoup besoin et lui, pas.
Ouais.
Donc du coup, suite à ça, il y a eu une sorte de déclenchement par rapport à moi. Parce que je suis revenue à mes racines, en fait, donc à mon style de vie que j'ai toujours connu. Ce qui a provoqué forcément des différences. Et en fait, le fait de m'être retrouvée moi, ça m'a fait prendre conscience de ce que j'avais besoin. Et en fait, de me rendre compte que c'était pas forcément ses besoins à lui, quoi.
Alors concrètement, donc vous avez eu besoin de vous rapprocher de votre famille. Quand vous dites « je suis redevenue moi » ou « tout à coup j'ai pu enfin vivre librement ce que je suis », c'est quoi concrètement ? Quelles étaient vos différences à ce moment-là ? En dehors de l'histoire de la famille, c'est que visiblement Sohan était plus casanier, il a moins besoin de voir du monde et vous avez besoin d'être tout le temps entouré, c'est un petit peu ça ?
Oui, c'est totalement ça. C'est que moi, j'ai besoin de sortir, de voir du monde. Je supporte pas la solitude, alors que lui, il est plutôt un reste dans le cocon familial, enfin, entre moi, notre fils et lui. Mm-hmm. Alors que moi, j'avais besoin, enfin, de voir des amis, de voir ma famille, d'aller en sortie, parce qu'on a énormément de sorties festives dans le coin. Donc, du coup, moi, j'ai connu ça toute ma vie. Et lui, non. Donc, du coup, il a voulu faire des efforts par rapport à ça, qui n'ont pas été très... Très concluant, quoi.
Alors, quels sont les efforts ? Est-ce qu'à un moment donné, il vous a exprimé aussi son mal-être par rapport à cette situation ?
Bah oui, parce que à un moment donné, il m'a dit, écoute, moi, c'est pas mon délire que d'aller dans vos soirées, machin. Il me dit, je vais faire l'effort de venir pour toi. Mais au final, je me suis rendu compte que les efforts qu'il faisait, c'était en dépit de sa volonté. Donc, il n'était pas du tout... Ça lui correspondait pas et il était pas à fond.
Il était pas heureux, quoi.
Ouais, voilà.
Et vous non plus.
Moi, mais du coup, moi, je le voyais pas inerte, mais à m'attendre presque. Ça marchait pas, quoi, ça collait pas.
Bah oui, c'est un poids dans ces moments-là, parce qu'en fait, vous vous empêchiez et l'un et l'autre, finalement, de vivre ce que vous aviez à vivre dans ces situations. Il vous a demandé quelque chose de particulier, Sohan ? Il vous a demandé de changer ?
Oui, bah oui, parce que moi, c'est par rapport à des trucs de caractère plutôt, parce que je suis quelqu'un qui est assez renfermé par rapport à mes sentiments, mes ressentis. Donc par rapport à ça, il m'a demandé de plus de m'ouvrir et de dire quand ça n'allait pas. Quelque chose que j'ai un petit peu réussi à faire, mais au premier problème, quoi, paf, on retourne à la case départ, on se referme et puis c'est reparti, quoi.
Il vous a demandé aussi de prendre de la distance avec tous ceux qui vous entouraient à ce moment-là ?
Oui, sur la fin, enfin, il m'a dit clairement, oui, la famille, c'est sympa, ils sont gentils, mais il y a un moment, il faut penser à nous aussi, quoi. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'en ai besoin, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de les voir, c'est comme ça. En gros, enfin, c'est pas, ça te va pas, tu t'en vas, quoi, mais j'ai vu ça comme un ultimatum, un peu, alors que pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, il faut qu'ils m'aiment pour ce que je suis, mais aussi pour ce que je suis pas. Et je me dis de quel droit on peut exiger de quelqu'un qu'il change, quoi. On est qui pour dire soit à la hauteur de ce que moi j'ai envie d'être et de à l'image que tu veux que tu sois de moi, quoi.
Alors, sans préjuger de la situation, est-ce que aujourd'hui Sohan pourrait dire la même chose de votre histoire, c'est-à-dire de se dire mais moi dans cette situation là j'ai pas pu être moi-même, j'ai pas pu vivre comme j'avais envie de vivre et j'ai eu le sentiment que Lucie me demandait quelque part aussi de changer.
Ah ben certainement, parce que de toute façon, on en a parlé de ça. Et je lui ai dit, mais moi, je te demande pas, je veux pas que tu changes pour moi. Je dis, si je ne t'aime pas pour ce que tu es, ou pour les points qui me dérangent, c'est pas à toi de changer pour moi. Il suffit juste que tu trouves quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Et moi, ça me correspond pas, simplement, en fait.
Bon, et comment ça va avec David ?
Ah,
il adore votre famille, il adore sortir.
Oui, c'est mon amoureux. Il me correspond beaucoup plus, oui, on aime les mêmes choses, enfin, je crois.
Vous vous sentez plus libre d'être vous, aujourd'hui ?
Oui, complètement, je suis 100% moi-même, enfin, je ne me pose pas de questions. Après, c'est le début, quoi, peut-être que je suis sur mon petit nuage et que je ne vois pas tout. Quoi, mais...
Vous êtes resté combien de temps avec Sohan ?
3 ans.
D'accord, et là ça fait 2 mois avec David.
Ouais, donc, écoutez. C'est pour ça, on s'emballe.
Non, mais alors, écoutez, d'abord, bon, c'est pas notre sujet, mais vous avez parfois aussi raison de vous emballer aussi, parce que dans la vie, il faut vivre ce qu'on a à vivre.
Oui. Clairement.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné sur cette antenne. Lucie, on vous souhaite plein de bonnes choses.
Oui, un gros bisou d'ailleurs.
Bah écoutez, on l'embrasse aussi. Et puis à propos de bonnes choses, sachez que comme vous êtes intervenu sur l'antenne aujourd'hui, le réseau de parfumerie et les instituts Beauty Success et RTL, la première radio de France, vont vous offrir un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros. Voilà, comme vous sortez, vous pourrez sortir pomponné, dites donc. Comme ça, la totale. On vous embrasse, Lucie. À bientôt sur RTL.
Je vous embrasse aussi, merci.
Salut, au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, on est fait pour s'entendre.
Myriam nous écrit « Quand on fait la connaissance d'une personne, il faudrait, dans l'absolu bien sûr, s'intéresser à son côté sombre, à certains de ses défauts, car c'est bien avec ça qu'il va falloir faire ou pas. Mais les 3/4 du temps, l'état euphorique et les petits papillons dans le ventre nous empêchent de creuser un peu plus, et c'est parfois regrettable. » C'est vrai que quand on se rencontre, il faudrait dire « Bon ben voilà, dis-moi un petit peu qui tu es aussi dans tout ce qui, te compose et tout ce qui serait peut-être susceptible un jour de me poser problème, parce qu'au moins on serait prévenu. » Mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, ces histoires d'amour.
Non,
on vient d'entendre le témoignage de Lucie sur l'antenne d'RTL. Qu'est-ce qu'il vous a inspiré, Patricia Delahaye ?
Eh bien, en fait, effectivement, un jour ou l'autre, il y a un peu de défauts qui apparaissent. Et il y a deux manières de le gérer, en fait. Soit on dit à l'autre « change », et on a assez peu de chances de résultats, à mon avis, de résultats durables. Soit on dit, voilà, c'est comme ça, il y a une incompatibilité. Comment est-ce qu'on peut, notre couple peut s'organiser autour de ces difficultés ? Alors, c'est bien ce que Lucie et Sohan ont essayé de faire, mais bon, finalement, ça n'a pas marché. Mais ils ont quand même essayé. Je trouve qu'ils se sont parlé, ils en ont discuté, et ils ont vu que vraiment, c'était incompatible, quoi, qu'ils ne pouvaient pas y arriver ensemble. Mmh. Je trouve que c'est une assez jolie démarche. Et puis, quelquefois, ne pas faire avec les défauts de l'autre, c'est bien, parce que vous voyez, par exemple, les femmes battues restent avec leur conjoint en espérant qu'il va changer, en croyant qu'il va changer. C'est un peu pareil pour d'autres problèmes graves
ou
aussi.
Ou sous la menace aussi,
Et en fait, quand c'est quelque chose de structurel, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Bernard Gibérovitch, qu'est-ce que ça vous a inspiré, l'histoire de Lucie et de Sohan ?
Pour compléter, je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Patricia Delahaye. Pour compléter, moi, ce que j'ai retenu, comment un problème se rigidifie. Et petit à petit, la discussion devient de plus en plus difficile et de plus en plus difficile. Et on a l'impression de voir Sohan de plus en plus casanier et Lucie de plus en plus en dehors.
On se radicalise.
On se radicalise et on ne se rend pas compte que ma position radicalise celle de l'autre et que sa position radicalise la mienne. Et que cette rigidification, qui est très, très fréquente, très courante, rend la résolution du problème beaucoup plus difficile. C'est à partir du moment où on prend conscience de ça qu'on peut se dire « mais qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer d'assouplir ta position et voilà ce que toi tu pourrais faire pour essayer d'assouplir la mienne. »
Voilà, quelques assouplissements sont nécessaires dans une situation qui se rigidifie.
Mais c'était très bien décrit par Lucie, la rigidification.
Exactement, et à un moment donné, on rentre dans un rapport de force, puisqu'on en arrive effectivement à des formes d'ultimatum. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'on est dans des rapports de force, Patricia Delahaye, dans le couple? Pourquoi est-ce que certains l'abordent comme une sorte de terrain qui, à un moment donné, peut devenir aussi un peu une guerre de tranchées?
Vous aviez raison, Flavie, en disant qu'on avait envie de contrôle, parfois envie de pouvoir. Mais je crois aussi qu'il y a une petite erreur, c'est de croire qu'on avance en parlant beaucoup des conflits. Vous voyez, et d'après les enquêtes que j'ai pu faire, c'est en parlant de ce qui va bien, justement, en parlant, en parlant des qualités, en parlant de tout ce qui nous rapproche, quelle est l'expression que vous avez employée, qu'on déradicalise, enfin dérigidifie,
qu'on assouplit.
Et qu'on assouplit. Voilà.
Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ces moments-là, dans ces rapports de force, Bernard Gébérovitch, le seul truc le seul registre sur lequel on est, c'est celui du reproche.
C'est celui du reproche. Et celui du reproche, après, le reproche entraîne une escalade symétrique, c'est-à-dire tu me reproches ça, mais moi je te reproche ça.
Mais on ne s'aime pas pour ça quand même. Enfin, moi, il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans.
Encore que.
Excusez-moi.
On ne s'aime pas pour ça, mais il y a. Bon, pardon, c'est le psy qui va parler,
oui,
donc les psys ont des idées un peu tordues. On poursuit quelque chose sans doute avec ça.
Oui,
c'est-à-dire que parfois on est pris nous-mêmes dans des contradictions internes, et le fait de pouvoir faire porter à l'autre une partie de nos contradictions internes, ça calme un peu les choses. C'est-à-dire, je ne suis pas prisonnier de mes contradictions, c'est toi qui me rends prisonnier, et voilà. Donc parfois, certains
conflits... On a une part de responsabilité aussi, évidemment, dans ces conflits-là.
On a une part de responsabilité. Il y a aussi, mais ça, c'est pas le propos aujourd'hui, sans doute, une part de responsabilité sur les modèles qui nous ont construits.
Absolument.
Conflictuels, pas conflictuels, comment les conflits ont été résolus, est-ce que la parole peut aider, ou est-ce qu'au contraire, la parole, parfois, ne sert pas à grand-chose? Pour Lucie, est-ce que parler de soi, c'est quelque chose de fragilisant et qui est une faiblesse, ou est-ce
une mise en danger, selon elle?
Voilà, il y a effectivement tout un tas de choses en nous qui viennent des modèles qu'on a pu avoir.
Bah évidemment, on arrive avec nos histoires. Hein. Si on était juste là pour s'aimer tranquillement, c'est vrai que ce serait pas aussi simple et on serait pas en train de faire une émission sur ce sujet. Patricia Delahaye, dans un instant, vous allez pouvoir rebondir sur les propos de Bernard, puisqu'on est un peu dans le sport. Hein. On se rigidifie, on s'assouplit, on rebondit. Mais ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL avec vous, bien sûr.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute la actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Mathieu qui nous écrit « Changer mon conjoint, non. » Même si parfois certains de ses traits de caractère m'agacent, c'est aussi ça qui fait son charme et qu'il est tel qu'il est. Alors je prends sur moi, je regarde tout ce qui me plaît et puis je passe à autre chose. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse changer qui on est vraiment, ou alors ça durera un temps limité et ça n'en sera que pire. Après, peut-on changer l'autre? Et puis surtout, pourquoi est-on tenté de le faire? C'est quoi une belle histoire d'amour où on se respecte, où on ne possède pas l'autre? On en parle aujourd'hui avec nos invités et je vais vous demander, Patricia Delahaye, de poursuivre nos échanges.
Eh bien, évidemment que quand on se sent accusé et quand quelqu'un dit « change, il faut que tu changes ça, il faut que tu deviennes comme j'ai envie que tu deviennes, etc. », on se replie, c'est comme les enfants, vous savez, qui sont accusés de faire une bêtise, on se caricature soi-même. Donc tout est dans la manière de faire. Alors il y avait le psychosociologue Jacques Salomé qui parle du message « je ». Voilà, ce qu'on peut dire, c'est « voilà, quand tu fais ça, ou quand tu... voilà ce que je ressens, ça me gêne, ça me... » Voilà, on peut parler de soi, mais c'est très difficile. En général, on va à la facilité qui consiste à accuser.
Bernard Gébérovitch, cette fameuse méthode d'expliquer son ressenti, en fait, ce que souligne effectivement Patricia Delahaye, c'est que il est une façon peut-être d'aborder ces problématiques-là avant que ça se rigidifie.
Bien sûr, et je trouve que c'est une façon. C'est pas seulement une méthode ou une technique, c'est une façon très riche parce que. Ouais. Quand j'explique pourquoi je suis troublé par les relations que tu as avec ta famille, pour reprendre l'histoire de Lucie, je parle de moi, je lui demande pas changer, mais je lui demande de me comprendre et j'essaye de la comprendre en même temps. Et du coup, il y a des choses qui peuvent s'adapter, évoluer, s'atténuer, et je peux essayer, moi, de prendre moins violemment le fait que ça met du temps et de pas être blessé. Quand on commence à sous-entendre si tu m'aimes, tu dois changer. Mmh. On met un enjeu très fort qui est et si tu n'y arrives pas, je viens de comprendre que tu ne m'aimes pas. Et
oui. Après, ou donc, tu ne seras pas digne de mon amour.
Voilà. Donc on rentre dans les choses qui vont venir amplifier les convictions qu'on a au départ. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on vérifie aussi des croyances qu'on a au début.
Patricia Delahaye.
Oui, parce que en fait, il ne s'agit pas de ne pas dire que quelque chose nous dérange. Vous voyez, c'est ce qu'on faisait autrefois dans les années 50, où les femmes s'écrasaient. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'exprimer aussi ses difficultés, son ressenti, ou ce qui relationnellement ne va pas. Mais effectivement, le dire d'une certaine manière, en parlant de soi, pour enrichir l'échange, et puis aussi voir comment on peut trouver des compromis qui permettent à tout le monde de vivre assez confortablement. Vous voyez.
Mais est-ce que c'est
en fait quand on regarde Lucie et Sohan auraient pu trouver
un terrain d'entente.
Auraient pu trouver des compromis. Mais si elle aurait pu aller voir sa famille, je sais pas, samedi après-midi, lui aurait fait ce qu'il aime. Il y a toujours dans les bons couples, on trouve une manière harmonieuse de vivre ensemble. En fait.
Alors est-ce que ça n'est pas l'occasion de revisiter dans ces moments-là aussi sa conception du couple, Bernard?
Oui, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc effectivement, il faut visiter la conception de chacun du couple, parce qu'on s'aperçoit, et ça fait partie des choses qu'on ne dit pas en se présentant quand on commence une histoire d'amour, on a effectivement chacun une conception du couple, de la famille, de l'individu dans le couple, de la liberté, de l'intimité et des frontières de l'intimité. Tout ça sont des différences fondamentales qu'il y a entre deux personnes membres d'un couple, parce qu'on sait bien que deux personnes différentes, ont des cultures familiales différentes et du coup des façons d'imaginer la relation différente. Et petit à petit, c'est intéressant de pouvoir discuter de ça pour voir si c'est compatible.
Oui, et c'est intéressant quand même ces rencontres-là de deux mondes différents, de deux cultures différentes, de passés différents. Patricia Delahaye, fait qu'à un moment donné, on a besoin de tout ramener à soi?
Bien, parce qu'on a besoin d'exister au sein du couple comme ailleurs, et en soi, c'est pas mauvais. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans les bons couples, entre guillemets, on s'accroche sur des choses qui ne sont pas fondamentales. C'est toujours les mêmes chaussettes qu'il faudrait laver, ranger. Vous voyez, ce sont des détails en fait qui servent un peu de soupape. Mais ça, c'est pas demandé à l'autre.
En fait, c'est que derrière un tube de dentifrice mal fermé, il y a forcément un message qui est plus profond.
Oui.
Sinon, c'est un peu du temps perdu.
Ou alors, c'est la soupape qu'on a trouvée à des contrariétés. Vous voyez, c'est vraiment le truc qui ne prête pas à conséquence aussi. Quelquefois, on demande à l'autre de changer. Mais sur vraiment des détails, quoi, une façon d'apporter quelque chose à table, ou de ne pas ranger, ou d'arriver sans. Enfin, vous voyez, c'est des trucs pas très graves. En revanche, on aura beaucoup plus de mal à parler à s'engueuler sur des choses de fond.
Bernard Gébérovitch, je vous vois sourire.
Oui, parce qu'on a du mal à s'engueuler sur des choses de fond. On peut, oui, effectivement, discuter ou même s'engueuler sur des choses de fond. Et puis au moins, on touche dans le dur. Les choses de fond, on sait bien, c'est effectivement les familles d'origine, c'est
la
le sexe, c'est l'argent.
Voilà.
C'est l'argent aussi.
Ouais.
Tout ça, c'est des choses de fond. Mais petit à petit, si on sait quelle est la base et si on sait qu'on a des bases communes et qu'on a envie de continuer, c'est des choses dont on peut discuter. Mais effectivement, on peut, comme vous dites,
on évite soigneusement les sujets qui fâchent vraiment.
Oui, on préfère s'engueuler pour un tube de dentifrice plutôt que de dire des choses graves.
Et c'est dommage parce que peut-être que il faudrait pouvoir parler de ce qu'on voudrait changer vraiment.
Bah dans un instant, vous allez nous expliquer comment faire, justement. On se retrouve tout de suite. Nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Si vous le souhaitez, vous pouvez composer le 3210. Voilà, le standard vous attend. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Alors, il y a battle dans ce studio et donc échange évidemment que l'on reprend avec vous en direct sur RTL. Alors, on parlait donc avec vous, hein, évidemment Bernard Gibérovitch et Patricia Delahaye, du fait de changer l'autre dans le couple, du fait peut-être aussi d'avoir besoin de posséder l'autre et de le faire évoluer à son image parce que ça nous rassure, parce qu'on se dit que dans ces moments-là, on peut toujours avoir une forme de contrôle. Et je vous expliquais il y a un instant en antenne, je dis oui, mais en plus, c'est pas très joli, voilà. C'est pas très noble. Et ce à quoi vous m'avez répondu, Patricia Delahaye.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très...
Rencontre l'autre, on est en train d'essayer de faire montre d'une forme de noblesse d'âme, je t'aime, ouais. Toi que tu es, machin, et puis à un moment donné, on en a...
Enfin... Mais au bout d'un certain temps, moi en général, je fais des enquêtes pour mes livres, et je me suis aperçue, par exemple, que cette histoire de respect est très très importante pour les gens. Donc effectivement, si on rebouche pas son tube de dentifrice et si on le laisse traîner, vous dites, c'est pas très joli de s'engueuler, entre guillemets,
dommage,
pour
enfin,
ça, c'est dommage. C'est pas noble. Oui, mais en même temps, la personne qui subit le dentifrice toujours ouvert ou les traces de pas sur le carrelage qu'elle vient de nettoyer, elle va se dire que c'est pas très noble aussi de pas faire attention. Donc vous voyez, en fait, les enjeux sont beaucoup plus importants. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir... pourquoi on demande à l'autre de changer comme ça? Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce que ça nous rappelle d'autrefois? Et là, on peut réussir à faire avec, à passer au-dessus, à être noble, justement, comme vous le disiez. Vous voyez, si on se comprend profondément, on va supporter beaucoup mieux les défauts de l'autre.
Quand je parlais de noblesse aussi, c'était prendre soin de son histoire d'amour. J'entendais par là aussi, alors il y a des chaussettes, le tube de dentifrice, il y a des choses qui sont plus profondes, hein, changer la nature de l'autre... essayer de le contraindre à être comme nous, c'est quelque part le priver d'une liberté, alors qu'on doit se sentir libre dans un couple, et que c'est une vision...
Alors,
tête de Patricia Delahaye, si vous pouvez aller sur RTL.fr, j'ai l'impression de ne dire que des choses...
Non, mais si on est maltraité, vous comprenez?
L'idée de changer l'autre, c'est de le priver d'une forme de liberté aussi, non?
Ça pourrait être de le priver d'une forme de liberté s'il le vit comme ça. Mais je suis quand même convaincu que ma liberté, c'est aussi de faire attention à mon couple. Donc, je peux...
Voilà.
Moi, j'essaye, en tout cas, c'est ce que j'essaye de dire à mes patients, et puis j'essaye de le faire moi aussi, de réfléchir de temps en temps à qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui est bien pour nous. De temps en temps, quand c'est trop cher payé, je choisis ce qui est bien pour moi.
Exactement.
Et de temps en temps, je peux aussi choisir ce qui est bien pour nous, ce qui me permet de faire d'autres choix. C'est ce qu'on fait, à vrai dire, tous les jours avec les enfants, quand on en a. Mais avec le conjoint, c'est plus difficile et c'est plus coûteux. C'est-à-dire qu'on ça le met en dette et on attend quelque chose ensuite en retour. Et là, ça devient plus compliqué.
Et c'est prendre soin du couple qui est une entité aussi.
On est
artisans à deux d'un couple.
Bien sûr, parce que l'histoire du respect, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, Patricia, quand vous dites ça. En même temps, ça n'est pas respectueux de tous les jours d'oublier de reboucher le dentifrice. Mais si je réfléchis bien... Je peux être à peu près convaincu que si je vis avec quelqu'un depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est que cette personne se respecte, me respecte et nous respecte la plupart du temps. Donc pourquoi est-ce que ce petit truc-là, je vais le considérer comme un truc majeur de manque de respect?
Il faut aller voir en soi, dans l'enfant, c'est vrai.
Pourquoi on est convaincu que dans un couple qui fonctionne bien, à un moment on va se faire avoir, à un moment on va être maltraité, ou à un moment... on a tous des croyances, je reviens là-dessus, mais c'est intéressant dans un couple de faire l'inventaire chacun des croyances qu'on peut avoir.
Donc, parler, dialoguer...
Et imaginer que ces croyances, on peut les faire évoluer.
Patricia.
C'est important d'en parler parce que on ne se rend pas compte de l'impact de nos défauts. D'abord, on ne les voit pas forcément comme des défauts. Par exemple, l'un va vous trouver radin, vous vous trouvez économe. Donc, vous pensez avoir une qualité et on va vous dire que c'est un défaut insupportable pour la vie de couple. D'où l'intérêt de s'expliquer, de dire ce qu'on ressent, de dire voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer.
Bernard Gébert, oui.
Mais vraisemblablement, on a l'impression d'être privé. Rappelle quelque chose de l'enfance. Aller chercher dans son enfance ce que ça nous rappelle, c'est toujours intéressant.
Donc ça veut dire qu'il faut bosser pour le couple, mais il faut bosser sur soi
pour
aussi,
soi,
dans ce cas-là, Bernard.
Oui.
Faut venir vous voir, je vais donner votre portable à tous ceux qui nous écoutent.
pas nécessairement, mais il faut, oui, réfléchir un peu. Et il y a des choses qu'on peut facilement toucher du doigt. On sait bien que, par exemple, quand on aime, on s'expose à la perte. Dès qu'on se lie avec quelqu'un, on s'expose à la perte. Donc si on est quelqu'un qui a été très sensibilisé aux séparations, à l'abandon, à des choses comme ça, il y a un risque en étant amoureux. Pour prendre un exemple très personnel, ma grand-mère disait tout le temps, quand un pauvre mange un poulet, c'est que l'un des deux est malade. Et donc je comprenais, moi, que si quelqu'un est amoureux de moi, c'est soit lui ou elle ne va pas bien, soit c'est moi qui vais pas bien. Donc il y a quelque chose de louche. Et quand on commence une histoire d'amour en disant c'est super, donc c'est louche, voilà, ça a mis un peu de temps pour pouvoir passer au-dessus de ça, mais on y arrive. Et pas nécessairement avec l'aide d'un psy, on y arrive quand on arrive à trouver le déclic.
Ce déclic, on va donc en parler dans un instant. Voilà, comment faire pour justement l'avoir, ce déclic? Ça nécessite une introspection, ça nécessite aussi du dialogue, et puis peut-être une mise en œuvre de l'esprit. Il faut se mettre dans certaines dispositions aussi pour se parler. C'est pas sur le ton du reproche qu'on y arrive, et on va en parler dans un instant avec vous en direct sur RTL.
Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Dans un instant, vous allez entendre le témoignage de Téna. Ça fait 25 ans qu'elle est en couple, Téna, donc elle va pouvoir nous expliquer un peu comment ça s'est passé chez elle. Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur ce fameux déclic dont vous parliez il y a un instant, Bernard Gébérovitch. Alors, est-ce que ça va vous paraître aussi un petit peu du domaine de l'utopie, mais est-ce que se mettre dans des bonnes dispositions aussi, ça n'est pas mesurer à un moment donné l'importance de l'amour que l'on porte à l'autre? Au lieu d'être tout le temps rigide, comme on le disait, manque d'assouplissement et sur le ton du reproche, est-ce qu'il n'est pas temps de convenir vraiment de tout ce que l'autre nous apporte, de faire preuve d'un peu de reconnaissance aussi?
Certainement. C'est essentiel.
Contente.
Mais c'est essentiel. La reconnaissance est un mot qui est très souvent employé.
Ouais, un besoin de reconnaissance.
Et réciproque.
Absolument.
Et donc de créer des contextes, de trouver des moments pour pouvoir échanger, se parler sans que ce soit à chaud au cours d'une dispute, d'une engueulade sur le ton de reproche, oui, ça permet à la fois de faire quand même, d'évaluer ce qui se passe bien et du coup de pouvoir parler un peu de ce qu'on voudrait modifier et de ce qu'on voudrait voir évoluer. Bien sûr, il faut créer des contextes c'est un petit effort de créer des contextes, d'éteindre les écrans et de se dire...
Ouais.
On va se prendre un moment pour discuter.
Oui, puis de voir ce que l'autre nous apporte aussi, Patricia. Vous nous disiez en cours d'émission, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas temps de parler des choses aussi qui vont bien? Là, c'est l'occasion, avant de parler de ce qui va mal, de dire, voilà, bon, l'autre, je lui en veux pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais pour qu'on puisse en parler, est-ce qu'il ne serait pas temps que je lui reconnaisse tout ce qu'il m'a apporté ou tout ce qu'elle m'a apporté?
C'est sûr que les reproches, entre guillemets, passent mieux. Ou voilà, ça assouplit beaucoup.
Bah oui.
C'est vrai qu'on risque son couple quand même si on répète tout le temps à l'autre change, puisque l'amour c'est surtout ne change rien, je t'aime comme tu es.
Bah oui, c'est ça n'est pas possible. Bonjour Téna.
Bonjour Flavie, bonjour à vos invités.
Bonjour.
Merci Téna de nous avoir laissé ce message sur Facebook, on avait très envie de vous entendre. 25 ans, toutes nos félicitations Téna.
25 ans déjà, oui.
Mais oui déjà, ça passe vite. Téna, vous êtes passée par toutes ces saisons justement, et notamment celle-ci qui est de vouloir peut-être changer l'autre. Certains nous disent on ne veut pas le changer, on veut juste l'améliorer. Oui, mais enfin, est-ce que vraiment l'autre en a envie? Est-ce que vous êtes passée par cette période-là?
Oui, moi au tout début de ma vie avec mon mari, de ma vie commune, parce que avant déjà de se marier, avant de nous marier, on a décidé de vivre ensemble pour voir si on était, parce que nous sommes très têtus. l'un et l'autre. Ouais. Et nous étions contre le changement. Nous étions parfaits, en quelque sorte. Chacun se croyait parfait, qui n'avait pas besoin de changer. Nous étions tellement têtus que nous avons décidé de nous mettre en ménage pour pouvoir voir si on allait se supporter.
C'est top,
donc, ça.
Ça
a duré 2 ans et demi.
Ouais.
Nous avons essayé de nous accepter tels que nous étions, mais têtus que nous étions, on a essayé de changer. Moi, j'ai essayé de changer mon mari. Lui, il a essayé de me changer sur beaucoup de choses. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était impossible et que le seul moyen de pouvoir vivre ensemble, c'était de trouver des terrains d'entente, de pouvoir faire des concessions. C'était la seule façon pour nous de pouvoir vivre ensemble. Parce que nous nous aimions et on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Donc, on devait forcément faire un sacrifice, c'est celui de trouver, de faire des concessions et d'aller sur un terrain d'entente. On n'avait pas le choix.
Est-ce que vous vous êtes retrouvée parfois, Téna, avec votre caractère de têtu et votre mari, le sien, dans des situations presque de désespoir fugace, mais de vous dire, mais on n'y arrivera jamais. Est-ce que vous êtes vraiment engueulée très fort?
Ah oui, on gueulait très fort, surtout au début. Ouais. Et je sais qu'au début, souvent, je lui disais, bon, si ça continue comme ça, chacun va de son côté, tout simplement. Ouais. On divorce, on ne reste plus ensemble, on n'est pas fait l'un pour l'autre, comme votre émission. On n'est pas fait pour s'entendre. Ouais. Et finalement, avec le temps, on est rentré dans des conflits parfois...
douloureux.
J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas les résoudre. Et
avec le recul, avec le recul,
finalement, on se dit tous les deux, aujourd'hui, on se dit que qu'est-ce qu'on était bêtes, parce que finalement, c'était des conflits qui ne valaient pas la peine.
Ouais.
Donc c'était des petites choses futiles qui ne valaient vraiment pas la peine.
Vous parlez de balayer les malentendus aussi.
Oui.
C'est vrai que parfois, on a une vision que l'autre ne partage pas forcément et on se méprend finalement sur les intentions de l'autre.
Ah oui, tout à fait. Ça nous est arrivé très souvent. Ça nous arrive de temps en temps maintenant. Après 25 ans de mariage, je crois que on a réussi à se comprendre. Je sais ce qu'il veut dire quand il prononce une phrase qui au début me faisait mal, me blessait. Aujourd'hui, avec le temps, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire derrière. Mmh. Et lui, de son côté, c'est la même chose. Mais je pense que ce qui est très très important dans un couple, plus c'est la communication. On ne peut pas rester chacun dans son coin à se morfondre et à retourner des phrases dans sa tête et se dire s'il fallait pas qu'il me dise ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là, il m'aime plus. Ça revient aussi, cette histoire, et même plus après tant d'années. On se pose la question, est-ce qu'après tant d'années, on s'aime encore? On s'aime encore, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est encore capable de vivre 25 ans de plus ensemble? Parfois, ce sont des questions qu'on se pose.
Téna, je vous remercie, vraiment, parce qu'il y avait la parole de la sagesse. On sent aussi un couple qui, progressivement, est allé à la rencontre l'un de l'autre. Hein, et ça, c'est quelque chose de très bon. On va y revenir dans un instant avec nos invités. Moi, je vous embrasse. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur l'antenne d'RTL. Merci, à bientôt, Téna.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
RTL. Flavie Flamand.
Voilà, très joli témoignage de Téna pour conclure cette émission. Très rapidement, qu'en avez-vous retenu, Bernard Gibérovitch?
J'en ai retenu que certains conflits valent sans doute le coup d'être vécus.
Oui.
Et que Téna nous a montré comment des conflits peuvent rendre aussi, parce que tout le reste de la relation, mais aussi peuvent être rendus positifs pour après mieux se comprendre et mieux s'entendre.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation,
avec
Bernard.
Plaisir.
Je rappelle vos ouvrages Les 7 vertus du couple aux éditions Odile Jacob et J'arrête d'être jaloux aux éditions Erol, un autre sujet. Patricia Delahaye, une réaction?
Oui. Eh bien, chacun se croit parfait. Évidemment, c'est faux.
Ouais.
Téna avait raison. La deuxième idée que j'ai retenue, c'est ne pas prendre les défauts de l'autre contre soi-même.
On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Patricia Delahaye. Comment s'aimer toujours? C'est votre ouvrage chez Le Duc et chez le même éditeur. Un autre ouvrage intéressant, c'est La relation mère-fille, les 3 clés de l'apaisement. Un autre sujet, mais tout aussi passionnant. Merci, Patricia Delahaye. Et je tiens à dire à Téna qu'elle va recevoir un panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros, puisqu'elle est intervenue sur l'antenne de la part de Beauty Success et d'RTL. Demain à 15h, Zapette en folie. On vous a proposé dernièrement une émission sur le phénomène des séries. Et vous avez été très nombreux à nous en réclamer un nouveau numéro. Ce sera demain
demain avec vos témoignages à 15h sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes pour un épisode de rigolade. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous, cessez de vous engueuler et puis rendez-vous demain.
Vous écoutez RTL.